Je vais me présenter d'abord un peu vite fait. Alors, je suis Michel Oel, je suis responsable technique de la société qui s'appelle Urbilog. Alors Urbilog, c'est un petit tétorien, mais peut-être un peu plus, c'est Okawa, on en a parlé un peu hier. Donc, je suis à l'origine de la création de cet outil, qui était une commande France Télécom au départ, hein, pour ses besoins internes en développement, et finalement qu'on a mis sur Internet. Et donc vous avez des accès plus ou moins gratuits sur un certain nombre de services. L'intérêt que nous, on avait porté au départ, dès 2001, c'est qu'on commençait déjà à parler, nous, d'ADAE. On a vu hier que c'est sorti en 2004, mais on en discutait bien avant. On faisait partie de Brainet aussi, d'AccessiWeb. Et donc, on sentait que c'était quand même, au niveau du test, un problème de référentiel. C'était de resituer les anomalies qu'on pouvait détecter automatiquement. Je parle bien d'automatisme, là. Je ne parle pas de test manuel. Les automates, on peut les resituer dans un contexte référentiel. Donc l'idée, c'était de sortir les règles de ce moteur pour qu'on puisse facilement faire la relation avec les référentiels. Bon, le sujet n'est pas ça aujourd'hui. Je vais parler donc d'un sujet dont le titre est Ajax et accessibilité. Mais je vais d'abord vous dire ce que je vais dire et surtout ce que je ne vais pas dire. Hein, là, ici, le sujet, c'est simplement savoir si on peut vraiment réalistement faire de l'accessibilité avec Ajax. Si oui, dans quelles conditions? Et à la limite, encore mieux, parce que moi je suis responsable technique d'une boîte, j'ai des développeurs avec moi, c'est surtout comment je peux industrialiser le processus si on a une réponse positive dans l'Ajax. Alors comment proposer des solutions à des clients dans lesquels la contrainte est quand même l'accessibilité, mais dans lequel on peut nous imposer ou s'imposer de l'Ajax. Là, n'est pas la question de savoir si c'est bien, donc, ou si c'est pas bien, si c'est vraiment le Web 2, pas le Web 2, je dirais, on s'en fout. Ce que je vais dire là même, beaucoup dans le propos, c'est adaptable à d'autres environnements de type client riche, ce sera valable pour Flex, enfin R, qui s'appelle maintenant, etc. Nous, c'est une technique, des techniques, et savoir comment on va les manipuler pour que l'accessibilité soit respectée. Et l'accessibilité avant tout, en premier lieu, pour nous, ce sera l'accessibilité au sens d'un référentiel, que ce soit les WCAG ou RGAA. Si on me demande de mettre un title sur une image qui ne fait pas plus de 80 caractères, le but, ce sera de faire ça. Pas forcément pour un développeur de savoir à quoi ça sert. Si on lui demande de le faire, il le fait. On explique quand même aux gens quel est le but. Mais au-delà de ça, après, on testera l'efficacité de l'intégration de ces critères d'accessibilité en le testant vraiment, en le faisant tester par des gens qui utilisent des outils. Chez nous, on utilise ce sujet-là parce qu'un de nos associés est malvoyant. Il utilise donc JAWS, il utilise des plages braille, il utilise tout ce que vous voulez. ZoomText, essentiellement, lui, il est malvoyant. Il n'est pas aveugle, mais il était fortement moyen-voyant pour beaucoup de pages. C'est comme s'il était aveugle. Donc, on sait les tester. Et donc, quelquefois aussi, trouver des solutions annexes qui ne sont pas forcément référencées dans l'accessibilité pour essayer de résoudre le problème. Ajax en particulier, ou toute technologie client riche, pose ce genre de problème. Alors d'abord, je vais remettre Ajax dans le contexte. Tout le monde n'est pas au courant forcément de ce que ça veut dire. Ajax, en réalité, ça veut dire simplement asynchrone. Donc en français, je vais le dire, puisque j'ai mis les deux. J'ai compris le message, il faut mettre les deux. JavaScript et XML asynchrone. Donc c'est des termes techniques, JavaScript, vous avez déjà entendu plus ou moins parler, c'est la partie algorithmique, je dirais, du côté cliente, c'est la seule façon pratiquement pratique qu'on a pour faire des choses dynamiquement côté cliente. Bon, ça va un peu plus loin, mais enfin, pour l'instant, on va rester là. XML, c'est pour dire que les mes transferts vont se faire en XML, et asynchrone, c'est pour dire qu'on ne va pas le faire de façon synchrone, c'est le contraire de synchrone. Et là, asynchrone, c'est parce qu'on va demander à avoir une réponse via une requête à un serveur et on va devoir attendre d'avoir la réponse. Mais pendant qu'on attend, on peut faire autre chose. Donc on peut être désynchronisé vis-à-vis du traitement de la page ou des actions que peut faire l'utilisateur sur notre page. Donc j'irai donc pour résumer un peu, une page classique, c'est Je demande à un serveur de m'envoyer à travers une URL et une requête, donc HTTP, d'avoir ma page pour être affichée dans mon navigateur. Ajax, lui, va permettre de demander quelque chose, un ensemble d'éléments spécifiques par rapport à une requête qu'on fait, toujours en HTTP, hein, c'est la même chose, mais on va pouvoir le récupérer avant le navigateur, enfin c'est pas comme le navigateur et refabrique la page, on récupère l'information, à nous de la transformer pour qu'elle s'affiche correctement. Donc on va jouer avec alors, essentiellement le DOM, hein, le DOM JavaScript, c'est-à-dire l'interprétation de notre HTML qui a été fait intérieur du navigateur pour savoir re-ranger les objets, les enlever, les faire disparaître, etc. Hein, donc, bien comprendre que, j'ai passé le slide là-dessus, le premier, c'est qu'Ajax n'est pas une technique. Hein. C'est un nom qui a été donné, mais en réalité, la technique, c'est JavaScript, HTTP, XML. Et en l'occurrence ici, HTTP, c'est un petit peu plus petit, c'est XML HTTP Request, hein, XHR. Quelquefois, vous le verrez sur des forums de discussion, parler simplement d'XHR. C'est la requête HTTP faite en JavaScript ou, malheureusement, pour certains navigateurs, 5 et 6 de IE. C'est quand même encore beaucoup, beaucoup de clients, beaucoup d'utilisateurs sur le réseau. Hein, avec un composant ActiveX. Alors, un composant ActiveX, c'est une application à l'intérieur de l'application. Hein, c'est Microsoft a inventé ce procédé pour dire, ben voilà, plutôt que de modifier mon navigateur pour faire interpréter ça, on a créé un composant à l'extérieur de format ActiveX qui va permettre de faire la jointure avec mon navigateur. En l'occurrence, par exemple, des gens inventent des plugins sous IE, par exemple, sous forme ActiveX, pour faire travailler en mode comme ils veulent, au-delà du navigateur, à l'intérieur du navigateur. Par exemple, le Player Flash est un ActiveX à l'intérieur du navigateur. Et donc, XML HTTP Request, c'est un ActiveX pour IE 5 et IE 6, et pour tous les autres, donc compris IE 7, ce qui est assez paradoxal, parce que Microsoft a quand même accepté de transformer ses requêtes en JavaScript pur. Tout le reste, c'est intégré à JavaScript. C'est dans fait partie de la bibliothèque JavaScript, c'est le JavaScript qui va permettre de faire les échanges. Donc la première remarque déjà au niveau, je dirais, technique, on ne va même pas parler d'accessibilité, enfin si, accessibilité au sens très large, c'est si moi je suis dans une boîte où j'ai à quelqu'un, mon administrateur réseau à verrouiller avec son proxy toute demande d'échange à travers de l'ActiveX, ben, si vous êtes IE5 et IE6, vous n'aurez pas d'Ajax. Ça c'est clair et net. Alors ça se fait, hein, parce que à travers ces petits composants, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de virus qui passent, beaucoup de Troyens, enfin, etc. Donc les gens ont tellement peur. Vous allez dans les systèmes bancaires, par exemple, c'est hors de question d'utiliser ça en interne, comme ça, n'importe comment. Hein, comme ça. Donc il y a des sites, il y a des nœuds où il sera interdit de le faire. Puis un autre composant aussi important pour, au niveau de l'accessibilité globale, c'est si moi, le JavaScript, je ne peux pas l'exécuter, ben, je suis marrant aussi, parce que je ne pourrais pas faire de l'Ajax. Alors comment on peut arriver à ne pas faire du JavaScript ? Bah, c'est d'abord qu'il faut avoir un navigateur qui ne l'a pas. Hein. Il y a quelques navigateurs exotiques, on va dire entre guillemets, type Linux, etc., qui n'interprètent pas JavaScript. Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas avoir accès au service par Ajax. Et aussi, quand il y a des sociétés qui bloquent le JavaScript. Il y a des sociétés qui bloquent le JavaScript pour leurs utilisateurs. Donc moi, en tant que développeur, pour répondre à un client, un cahier des charges, pour exécuter un service à partir des demandes ou de la volonté qu'on ait d'intégrer en client riche de type Ajax, c'est si je ne prends pas en compte ce minimum d'informations, je risque d'aller à la catastrophe. Donc on doit vraiment se poser dès le départ, quand on a une politique de type client riche, Ajax, mais ce sera vrai pour n'importe quel type de client riche. Est-ce qu'on a raison de faire ça comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas une solution plus simple? Plus standard, on va dire. Standard HTML, etc. Ou si on doit le faire, est-ce qu'il ne faudrait pas penser aussi à une alternative? Je prends un peu parce que ça commence à se dessécher. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose d'alternatif à la fonctionnalité qu'on est censé remplir avec notre AJAX? Alors, on a parlé hier un peu de ça, des alternatives de système. Donc, dans les WCAG, il est prévu effectivement qu'on ne peut pas faire autrement, on a le droit à faire des alternatives. Là, je dirais, on va essayer de réfléchir intelligemment, c'est pas de faire une alternative vraiment, c'est de proposer éventuellement de voir si on ne peut pas faire quelque chose de plus sophistiqué. Pour l'instant, pour prendre une décision, il va falloir, pour répondre à ces questions, essayer de savoir quel est le bon pour et le contre. Bon, je dirais, il y a des tas de raisons qui sont pour, qui sont contre. Je dirais, en majorité, ce qui est communément admis, c'est que l'intérêt d'Ajax, c'est de limiter les échanges avec le serveur, parce que c'est évident que plutôt, en cliquant sur un lien, plutôt de ramener à chaque fois des pages complètes. Je parle là pas de site statique, parce que finalement, à la limite, globalement, s'il y a 10 pages dans votre site et que vous avez déjà regardé les 10 pages étant dans votre cache, il n'y a plus d'échange à faire, donc c'est relativement limité. Mais pour un site vraiment dynamique, un site marchand dans lequel vous consultez un catalogue, vous choisissez vos produits, vous les mettez dans un panier, enfin tout ce qui peut exister aujourd'hui, où vous avez des tableaux récapitulatifs qui vous donnent tous les avantages, machin, que vous pouvez trier dans tous les sens, c'est intéressant quand même de se poser la question, surtout si le site est très visité, de commencer à limiter les échanges avec le serveur pour augmenter la bande passante. Plus il y aura de personnes en parallèle, plus on a des chances de vendre, plus on vend, plus les sociétés gagnent d'argent, ça c'est clair. Donc on va essayer de limiter ces échanges. Donc ça c'est un bon point pour Ajax. Je dirais pour nous développeurs, un autre bon point, c'est que finalement, si on a une démarche intelligente, c'est de n'avoir qu'à penser à des modifications relativement succinctes. C'est-à-dire qu'en fait, Ajax ne va pas transformer votre page complète, sinon ça ne sert à rien, c'est autant faire du HTML standard. Là, c'est juste dire, il n'y a qu'un petit truc dans mon coin qui va changer. Et donc, je vais apporter ce service. Alors, je peux donner quelques exemples, qui sont communément, maintenant, que vous trouvez sur Internet, avec des solutions, bon, pas forcément accessibles, mais dans lesquelles on cherche, et a priori, des gens trouvent quand même des solutions accessibles. On a parlé un peu hier de complétion, d'autocomplétion aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire quoi en termes techniques? C'est, je suis en train de saisir une zone, et on va m'assister. Alors, c'est différentes façons d'assister, c'est-à-dire qu'en fait, vous mettez les premiers caractères et on vous suggère les caractères suivants. Donc, vous dites c'est bon, hop, entrez, c'est bon, c'est passé. Donc, au moins, on m'a assisté. Alors, le problème, c'est que comment assister ? Il y a le navigateur lui-même, quelquefois, qui aide. Il y a un attribut qui s'appelle autocompletion, on va le mettre à on ou off, qui permet éventuellement de se souvenir de ce qu'on écrit. Vous avez peut-être déjà remarqué, quand vous mettez votre login, quelquefois, il vous propose déjà, commencez à mettre votre mail, par exemple, hop, il vous propose tout de suite votre mail. Il y a de l'autocomplétion faite par le navigateur. Mais maintenant, je vais prendre un cas particulier, j'ai mon site web, le but, c'est par exemple de trouver un pays, de demander à mon utilisateur de choisir son pays. Les pays, dans le monde, il y en a un paquet quand même. Et une fois que j'ai choisi mon pays, de choisir ma ville. Donc si je m'amuse à dire, je vais balancer un tableau pays-ville du monde, on peut le faire. Donc vous pourrez faire l'autocomplétion avec du JavaScript local, pas de problème, ce sera standard, impeccable. Ce sera un peu lourd. Là, l'idée, c'est de dire, est-ce que Ajax pourrait me servir à gérer ça convenablement? C'est, j'aide la personne à choisir son pays, dès qu'il met une lettre, pouf, je lui ouvre un petit sous-menu en dessous qui me permet de voir les pays qui commencent par cette lettre-là. À la limite, je me déplace avec les flèches basses, je choisis mon pays, et j'ai mon pays, et automatiquement, par exemple, je peux commencer à construire ma sélection en dessous, pour choisir maintenant ma ville, parce que connaissant mon pays, je peux faire la requête pour dire « donne-moi tout de suite les villes correspondant à ce pays » et je vais commencer aussi à faire l'autocomplétion sur mon pays. Donc on a un intérêt là-dedans, au moins au point de vue des échanges et de la modification à apporter sur les algos pour implémenter ça à l'intérieur de la page, c'est relativement intéressant en tant que développeur. Bon, par contre, il y a un contre, forcément, s'il n'y avait pas de contre, on n'en parlera même pas, on aurait déjà intégré ça facilement dans les directives d'accessibilité. Le premier contre, on a entendu parler tout à l'heure de référencement, là c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'en réalité, les robots, eux, ils ne vont pas faire les requêtes à votre place, ça c'est clair. Donc, le robot connaîtra que la première page. Donc si tout votre site est basé sur Ajax, vous êtes full Ajax, et tous vos services derrière sont sans changement de cette première page juste, des morceaux de la page qui vont changer dynamiquement, vous êtes sûr que vous n'avez qu'une page référencée sur Internet. Bon, pour une application web, ça ne gêne pas, on s'en fout, on n'est pas forcément là pour faire du référencement là-dedans. Quand c'est intranet en plus, encore moins, etc. Mais pour une société qui veut faire du business, pour vendre, ne pas avoir son catalogue référencé par Google, c'est déjà un peu plus emmerdant. Un autre truc, là, plus encore emmerdant, là, du côté utilisateur, ben, abandonner l'idée que vos boutons précédents, suivants, rafraîchissement et mise en favori vont fonctionner correctement. Sauf si on a pensé. Il y a des astuces. Hein. Vous verrez sur Internet, il y a des gens qui préconisent de passer en plus par une iframe invisible pour faire les transactions, et c'est l'iframe qui fait la requête. Du coup, elle est quand même mise dans les pi, dans les historiques et tout ça. Techniquement, on y arrive toujours. On arrive toujours. Mais moralité des choses, moi, industriellement, ça, on va bannir, parce que ça va tenir combien? J'en sais rien. Moi. Un jour, peut-être, on ressortira un truc qui va mieux marcher, et tout ça, il faut mettre à la poubelle. Donc, pour l'instant, on ne va pas trop se soucier de ça, mais sachez qu'en fait, le contre, c'est ça. Donc, il faudra quand même avertir votre client. Attention, les gens, ils vont faire du précédent, du suivant, et risquent d'être déçus sur comment va réagir le système. Bon, enfin, ça aussi, c'est un sujet qui est débattu, parce qu'il n'y a pas de l'Ajax qui fait ça. Vous avez un formulaire dans lequel vous avez plusieurs formulaires à la suite des uns des autres, vous faites précédent, vous allez avoir les mêmes surprises. Hein. Le précédent ne fait pas de précédent. Même si on est en HTML pur. Donc là, maintenant, bon, j'ai mis sur la table les pour, les contre. Hein. Je dirais, on va considérer qu'on a choisi. Moi, je n'ai pas d'arguments d'autres à donner. Et de toute façon, il y a là-dedans aussi des arguments marketing, d'infographie, de machin, des gens qui veulent des choses qui bougent, machin. Moi, je dirais, moi, pour ça, je m'en fous. On a décidé qu'il fallait utiliser Ajax. Et quelquefois, on est même contraint. Hein. Nous, on a fait des intranets sur des clients, ou les services qu'on va chercher à l'extérieur, on est obligé d'utiliser Ajax. Donc là, il va falloir répondre à la demande, hein, si on ne peut pas y arriver. Donc, on va l'intégrer. Donc maintenant, en tant que développeur, on va se poser la question, quelle est la meilleure façon technique d'intégrer tout ça, sachant qu'on se met quand même à un niveau assez élevé, parce qu'on a une contrainte d'accessibilité. Et puis caché, moi, ce qui m'intéresse le plus, parce que c'est ça qui fait le coût d'un projet, c'est est-ce que c'est testable? Parce que si on balance des trucs qui ne sont pas testables, qu'on se revient avec derrière des remarques disant c'est quoi votre bordel, vous avez dit que c'était accessible, ça ne l'est pas, etc. Donc il va falloir tester. Donc, comment faire pour être testable facilement? Et comment faire pour être maintenable? Parce que moi je veux bien faire l'effort une fois, la deuxième fois, on essaiera de capitaliser et puis de rebalancer tout ça. Donc moi il me faut une méthode. Donc il y a des gens qui ont déjà pensé, hein, Ajax n'est pas nouveau, hein, même historiquement, si vous saviez, en fait Ajax existe depuis 1999. Hein, donc c'est seulement maintenant qu'on commence à dire que c'est la grande révolution, mais la technique, le JavaScript et XMHTTP Request, c'est Microsoft qui l'a créé, ça. C'est devenu à la mode, hein, vous savez, c'est pas du standard en fait, hein, c'est Microsoft qui a fait ça. Et puis finalement, c'est intéressant, il y a plein de sociétés, hein, qui ont inventé plein de trucs sur le net, qui ont été mises sur le côté parce que ce n'était pas le moment. Et ce n'est pas seulement Microsoft, c'est plein d'autres sociétés. Il y a des choses qui auraient été très intéressantes pour nous. On va en parler tout à l'heure. La notion, par exemple, de behavior, de comportement que peuvent avoir des composants, dans une programmation par composant, ça aurait été bien. Microsoft l'a inventé aussi. Je parle toujours de Microsoft, mais je ne suis pas pro-Microsoft. Je n'ai rien à voir avec eux. Mais ils avaient inventé quelquefois des choses très intelligentes, qui marchent très bien, qui marchent toujours actuellement, sous des IE, malheureusement. Et qui permet d'industrialiser des processus beaucoup plus facilement. Bon, ça commence à changer parce que W3C, par exemple, a commencé à sortir des directives sur des, justement, par exemple, la notion de comportement ou au moins de binding avec XBL. Je crois qu'il y a un atelier demain en XBL qui va parler un peu de tout ça. Je crois qu'il va falloir s'orienter, nous, en tant que développeurs, vers ce genre de choses. Hein. Si on veut vraiment aller très loin, mais quand même que ça ne coûte pas trop cher et qu'on s'y retrouve, il va falloir quand même penser à tout ça sérieusement. Donc là, en l'occurrence, c'est une autre méthode, sa méthode de développement. Voilà, elle n'est pas si extraordinaire que ça. Elle reprend pas mal de principes des standards. Hein, c'est à travers un article que j'ai trouvé d'un monsieur qui s'appelle Toby Olson, qui a été traduit en français par Yo-Yo Design, et qui a été très bien traduit, parce que quelquefois les articles techniques, quand ils sont traduits, c'est pas forcément. Là, il a vraiment été très bien traduit, qui nous propose deux méthodes de conception de page. Alors, deux méthodes, on a parlé un peu hier, c'est Jean-Louis Carves qui a énoncé le nom de dégradation gracieuse. Enfin, en français, on dirait ça. Là, il reprend le terme en disant « Mon système dégradé, c'est quoi ?» Et c'est souvent le cas qui va se présenter quand on veut remettre en accessibilité certaines pages, assez simple. C'est « Bon, ma page existe, elle vaut ce qu'elle vaut, a priori tout le monde est satisfait, sauf en termes d'accessibilité, qu'est-ce qu'on va faire ?» Comme le préconisent les WCAG, on va rajouter de la dégradation. Bon, c'est un peu dur d'entendre ça. Title, on pourrait plutôt penser qu'on redonne l'information, mais sachez quand même que finalement, ce title n'intéresse que les gens qui n'en voient pas l'image. Alors, pas seulement les aveugles, mais ceux qui, par exemple, qui ont interdit les images ou qui n'ont pas le navigateur avec une image. Donc, la forme dégradée d'une image, c'est son texte. On donne une information textuelle équivalente à l'image. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit pertinente. Le alt, c'est pareil. Vous avez 40 cliqués ici, avec les liens qui vont vers ça. Même nous voyant, cliquer ici, si on le sort de son contexte, ça va être difficile. Bon, ils sont toujours attachés à un contexte de contenu, derrière des titres, etc. Donc on sait à peu près ce que ça veut dire cliquer ici quand c'est au bout d'un paragraphe. Donc c'est en lire plus, etc. Mais, par contre, avec JAWS, si vous demandez à JAWS de me donner la liste des liens, et je vais les classer par exemple par C, et je vais avoir la liste des cliqués ici, 40 d'un coup, il ne va pas me donner d'informations supplémentaires si on se contente de donner cliquer ici. Donc il faudra rajouter le title. Là, ça va être intéressant pour ça. Donc ça fait partie du mode dégradé. Je suis dans un mode où je ne veux voir que les liens, il faut que j'identifie les liens correctement. Vous, quand vous voyez tout, vous n'avez pas besoin de balader votre souris au-dessus du lien pour savoir ce qu'il a de plus. Vous le savez tout de suite, vous cliquez dessus. Ensuite, le mode dégradé, là, c'est plus cette orientation-là, c'est les fameuses balises no script, no frame. Les gens qui n'ont pas de script, de JavaScript, demandent de faire une alternative sans script, presque un nouveau site. Bon, en général, au mieux, il y a une liste de liens, un menu. Alors, j'ai déjà vu des sites, je ne vais pas citer les noms parce que ça... Ça va faire mal, parce que je crois que c'est toujours comme ça. C'est le NoScript, c'est faire le menu global de tout ce qu'il y a dans le site. Mais le problème, c'est que sur chaque page, c'est qu'un menu. C'est toujours le même menu. Donc si on veut naviguer sans JavaScript à travers le site, je ne vois que des menus, ce qui est vachement intéressant. Mais bon, dans les directives, c'était marqué comme ça. À la limite, vous allez avoir un automate type Okawa ou d'autres, ou Watchfire, etc. Il va vous dire, oh non, c'est parfait, vous avez mis des liens à l'intérieur. Vous voyez bien, vous comprenez bien que c'est quand même plus compliqué que ça. Au pire, il y a même pire, là c'est vraiment se foutre du monde, mais à la limite, c'est même toléré, par exemple, dans la section 508 américaine, c'est si vous n'avez pas de script, on vous dit, ayez un navigateur avec JavaScript. Si je n'ai pas de script, c'est souvent parce que je ne le veux pas, c'est pas que je ne le veux pas, c'est parce que j'utilise un navigateur qui ne l'a pas, ou c'est parce qu'on m'a imposé qu'il n'y en ait pas. Donc, voilà, vous n'avez plus vos yeux pour pleurer. Donc, ça, c'est cette méthode dégradée, j'ai quelque chose et je viens modifier pour pouvoir travailler en mode dégradé. C'est souvent des pages qu'on répare, par exemple, en audit, en accessibilité pour des sites statiques. On ne va pas s'embêter trop, entre guillemets. Souvent, les pages sont assez simples pour les rendre accessibles. Et s'il n'y a jamais des petits machins en JavaScript et tout ça, on met ça, ça marche très bien. Ça ne coûte pas trop cher. Là, ici, moi, ce que je veux, ce n'est pas ça. Moi, je veux une méthode permettant de dire comment je vais être sûr d'intégrer correctement mon Ajax en accessibilité. Ben là, c'est ce mode de travail qui a été traduit par YoDesign par rehausser, qui pourrait être traduit sur d'autres sites, c'est traduit par renforcer. Mais rehausser, je préfère parce que c'est vraiment ça l'image. C'est-à-dire, on va travailler à l'envers. Ici, il est hors de question de travailler la dégradation après avoir tout fabriqué. C'est je travaille dans un mode minimaliste. Et le vrai mode minimaliste en HTML, c'est le HTML. Je veux que mon service complet fonctionne en HTML sans JavaScript, sans CSS. Autant que faire se peut, forcément. Mais on fait vite les détails. C'est-à-dire que ce truc qui ne sert à rien, on le met sur le côté. Ça ne sert à rien. Donc, mon service ne va pas être rendu différemment. Mais par exemple, on parlait d'autocomplétion. Là. On voit mal comment je vais faire qu'en HTML ça. En fait, une solution en HTML, elle est simple. Vous mettez votre formulaire avec vos deux zones, pays. Non, je ne pourrais pas faire d'autocomplétion, mais un petit peu quand même. Pays, je vais accepter de donner la liste des pays, donc je peux m'amuser. Donc je n'ai pas de JavaScript, mais je peux donner un select, choisissez votre pays, éventuellement les regrouper par des trucs, parce que les standards W3C demandent éventuellement faire des regroupements, je peux les regrouper par continent, des trucs comme ça, pour retrouver plus facilement mon pays. Et puis ma deuxième zone, je mets un bouton à côté en disant ben, quand j'ai choisi mon pays, je clique dessus. Et j'ai en dessous une autre select qui sera prêt pour mes pays, avec aussi éventuellement enfin, d'autres choses derrière et ma soumission complète. Mais je vais rendre disable cette select. Donc en fait, j'ai qu'une page, j'ai mon HTML, tout est prêt pour faire ma transaction, pour sélectionner mon pays et ma ville. Je soumets la première fois le premier bouton. Mon serveur sait qu'on a choisi tel pays, il peut très bien modifier la page. Donc la page HTML nouvelle, avec le même formulaire, sauf que maintenant on a déjà renseigné la select, le pays, c'est pas la peine d'y toucher. Et éventuellement, on peut le bloquer pour éviter que les gens modifient avant, enfin, etc., puis qu'on se retrouve désynchronisé. Donc on a choisi ce pays, à la limite, on met même plus de select, on met directement la zone, vous avez choisi tel pays, si vous voulez changer, bah, cliquez ici. Hein, voilà, c'est ça. Et là, on aura rempli la zone select avec les villes concernant ce pays-là. Donc on a décomposé, je dirais, notre service qui pourrait être fait en un coup, par exemple, est assez sophistiqué aussi bien ergonomiquement et en design avec de l'Ajax. On le fait quand même en deux fonctions, en deux passes, qui ne doivent pas coûter bien méchant au niveau du serveur et de l'échange, mais qui fonctionne quand même. Si vous faites cet effort-là, vous êtes déjà à peu près sûr que même sans rien, tout ça fonctionne. Et après, bon, une fois qu'on a réglé tous nos problèmes, on a pris les cas compliqués, bon, les cas extrêmement compliqués, on les mettra de côté, on verra plus tard, ou un truc comme ça, hein, comme on dit tout à l'heure, rendre accessible, c'est pas forcément rendre accessible tout, hein, mais essayer de faire le mieux. Hein, et après, pour les trop compliqués, on fera peut-être de l'alternative réelle. Ici, on va rehausser avec les techniques des standards qu'on a déjà évoquées exposés, c'est je vais écrire mes feuilles de style en externe, parce que pour moi, pour tester, c'est plus simple. Moi, ma feuille externe, je l'enlève. Hein, dans mon serveur, je mets en commentaire mon accès à ma feuille. Voilà, j'ai plus de feuille de style. Et je peux toujours voir comment ça fonctionne sans feuille de style. Moi, je peux inventer un tel mécanisme, ça pose pas de problème. Donc, je mets tout en externe dans mes feuilles de style. J'extériorise tout ce qui est l'apparence. Et je vais essayer de me coller au mieux à mes directives infographiques et ergonomiques. Parce que forcément, ce travail-là est fait à côté. Moi, je considère que du développement pur. Là, on fait que du montage. Donc, on a monté en HTML, maintenant, on met la peinture. Puis après, une fois qu'on a fait ça, que c'est joli, mais que ça marche quand même, parce que ça continue à marcher, il n'y a pas de raison. Le CSS ne va pas empêcher que ça fonctionne, à moins qu'on ait mis les displays non, et puis on ne les voit plus, etc. Mais ça devrait marcher. Une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à dire, bah, tiens, je peux introduire du JavaScript. Je ne parle même pas encore d'Ajax, un JavaScript. J'ai des menus déroulants, des machins, des trucs, etc. Donc les menus déroulants, par exemple, là, pour le HTML, on ne peut pas les dérouler. Ça veut dire quoi ? Bah, il faut avoir un système qui soit déroulé. C'est-à-dire que de base, en HTML, il faut que tout soit déroulé. Point. Vous avez des gros menus sur les côtés, tant pis, hein, vous verrez du coup le nombre de liens que vous mettez, c'est quand même assez quelquefois conséquent. On n'a peut-être pas forcément besoin d'avoir tout le menu du site en un seul truc. Bon, il y a des gens qui sont pour, moi, personnellement, je ne vois pas trop d'intérêt. En tout cas, vous avez quelque chose de déployé. Maintenant, je l'ai stylé, donc j'ai un style sans JavaScript quand même. Donc je peux le rendre joli quand même, hein, je peux décaler, je peux le rendre compréhensible, parce que pour les malvoyants, c'est intéressant quand même. Et puis après, bah, je vais parler de JavaScript. Donc là, maintenant, c'est le moment de replier tout ça. Par défaut, on va replier tous ces trucs-là. Donc c'est le JavaScript qui, lui, va donner ses ordres pour replier. Alors cette notion de non-obstructive, hein, alors je ne sais pas si tout le monde est au courant de ça, c'est l'objectif de ce genre de technique, c'est de vraiment ne pas être intrusif dans mon code. Mon code est déjà là, moi je sais qu'il fonctionne. Donc maintenant mon JavaScript ne me sert pas à fabriquer du code, il me sert à rendre des services, soit en relookage, soit maintenant après en faisant des services spécifiques liés à Ajax. Le cas classique qui est nommé là-dedans, qui est souvent repris sur Internet, c'est comment faire des pop-up accessibles. Hein, c'est plus ou moins de là qu'est partie ces notions de non-obstructive. Je dirais, la première solution là, que je donne, elle est déjà évoluée. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai quand même mis un href avec un HTML, enfin une page HTML qui va être dedans, et j'ai aussi un onClick. avec, remarquez bien, un return pop-up en ayant le même accès à machin. Alors, pop-up, la fonction pop-up, elle n'existe pas. Je vais vous montrer directement, là, en code source, si ça ne rebute pas trop les gens. Je vais vous montrer mon HTML. On a agrandi les caractères. Vous voyez, j'ai mis la langue. Je suis bien sur une page français. Mais ça, c'est un critère d'accessibilité. On est obligé de le faire. Bon, ici, on verra après mes scripts. Ici, j'ai fait trois cas. Premier cas, j'ai un lien non accessible. Alors, je dirais que c'est souvent ce que les gens y font. Ici, href égale 2.javascript, pop-up, machin. Enfin, j'ai une fonction qui le fait. Ça marche. Pas de problème. J'en ai fait un deuxième, c'est lien accessible, là qui devient plus accessible, c'était la première version de cette notion de pop-up, c'est je mets un lien href et je mets un onClick. Alors la particularité technique de ça, c'est que c'est le onClick qui se fait avant. Ça, c'est un principe des moteurs de rendu. Dès qu'ils ont un événement, on peut les trapper avant qu'ils exécutent quelque chose et nous décider de qu'est-ce qui va être fait à l'intérieur de cet événement. Et on a même moyen de l'arrêter, d'arrêter sa propagation. Parce que dans le cas particulier d'un lien, si vous faites quelque chose, par exemple window open, machin, parce qu'en JavaScript, il y a moyen de changer de fenêtre en lui donnant une window open, et donc le lien hypertexte, enfin la valeur URL de la page qu'il faut accéder, ça va s'ouvrir, mais si vous n'arrêtez pas la propagation de ça, l'effet pervers, c'est qu'il va exécuter le href. Or là, dans notre cas, on va se retrouver avec deux fenêtres qui ont le même HTML. Puisque d'un côté, je fais un pop-up, machin, et ça s'ouvre ailleurs. Et dans ma page, le href, si je ne l'arrête pas, il va aussi afficher le pop-up. Donc là, c'est pour ça qu'il y a un return. Le return, il suffit pour l'arrêter de dire false, faux. Quand un événement est déclaré faux à la fin, il arrête sa propagation. C'est ça la règle. Donc là, on est déjà un peu plus accessible parce que ça marchera. Et le troisième, bon, je vais tout de suite les tester. Vous voyez le premier, je fais ça, bon, pas de problème, j'ai bien une page qui s'est ouverte ici, et ma page qui reste là. Parce que j'ai mis le return false, enfin, là il n'y a pas directement, c'est JavaScript direct. Donc là, j'ai ça qui est resté là, machin, et j'ai demandé à ouvrir dans une autre fenêtre. Donc ça fonctionne. Sauf que maintenant, je vais éteindre, je vais vous prouver que ça ne fonctionne pas, et que ce n'est pas accessible si on n'a pas, par exemple, de JavaScript. J'ai du mal à voir. JavaScript, c'est ici. Là, c'est la developer toolbar qui permet d'enlever le JavaScript. On a dit tout à l'heure que c'était un peu compliqué. C'est compliqué, mais pour nous, en tant que développeur, c'est primordial. Je rafraîchis ma page. Donc là, je suis sûr qu'il interprète sans JavaScript. Je fais ça. Il n'y a rien qui se passe. Donc là, je suis dans le cas configuré. C'est j'ai un simple lien. Je l'ai généré en JavaScript. Je ne peux pas y aller. Là, par contre, si je clique sur celui-là, j'ai quand même accès à ma pop-up. Mais en réalité, ma pop-up, c'est le href qui s'est exécuté, puisque le onClick n'est pas exécutable. Donc elle reste dans la même fenêtre. Sauf si j'ai mis l'artefact target blank, etc. Mais bon, ce n'est pas le but. Et donc je vais remettre mon JavaScript. Et ici, si j'appuie sur le deuxième lien, j'ai bien l'ouverture de ma pop-up ici. Donc là, je dirais que c'est le même. Nous, on a un troisième cas, parce que là, c'est très intéressant. Là, je vais mélanger, je vais faire un peu plus loin, parce que nous, c'est des choses qu'on utilise énormément. Maintenant, pour moi, il faut l'utiliser, parce que ça résout quand même un certain nombre de problèmes de développement. C'est presque la même chose. Je vais revenir à mes slides. On testera après. C'est... Ici, vous voyez, dans ma classe, dans ma A, je n'ai plus accès à onClick. Je n'ai pas défini de onClick, du moins en direct. Donc là, je suis vraiment non intrusif. C'est-à-dire, on ne voit même pas que j'utilise du JavaScript. J'ai simplement déclaré une classe qui s'appelle pop-up, avec mon href, machin. En dessous, ce n'est pas directement en dessous, c'est dans un script. Je vais écrire ça. Alors, regardez bien, l'écriture, elle est assez bluffante. Pour ceux qui ont déjà fait un peu de JavaScript, c'est... j'écris une règle, a.popup, ça ressemble, c'est du XPath en fait, ça ressemble à du règle CSS, mais parce que c'en est, c'est écrit comme. Ce n'est pas interprété par le CSS, il ne faut pas se tromper, mais on va écrire de la même façon. On a l'habitude, parce que nous, on a déjà construit toute notre page en CSS, donc on sait très bien nos objets, on sait très bien les classes qu'on a données, on sait très bien les ID qu'on a, on sait très bien dans quoi ça englobe, etc. Donc on connaît bien ça, on maîtrise ça. Et moi, l'intérêt, c'est de dire, je vais globaliser, toutes mes A qui auront la classe pop-up vont faire quoi? Ben, je leur définis une fonction onClick dans laquelle il va faire mon return pop-up thisHref. Alors thisHref, c'est pour dire, toi, le lien qui m'a appelé, dans ton href, tu as un lien et tu te mets dedans. Donc ça veut dire qu'on est très générique à ce moment-là. N'importe quel A dans mes pages ou dans mon site qui aura classe pop-up va exécuter cette fonction-là. Hein, vous voyez ici, c'est behavior register ma règle. Hein, il y a un composant qui s'appelle behavior, c'est M. Ben Nolan qui a écrit ça en 2005, je crois. Une bibliothèque qui est assez petite, qui marche très très bien. Elle n'a même pas besoin, on parlera après de prototype, elle n'a même pas besoin d'elle. Vous mettez behavior.js, ça doit coûter en kilo-octets à peine une vingtaine de kilos, et vous pouvez écrire tous vos événements comme ça, tous, sans exception, onMoveOver, onLoad, etc., etc. Donc du coup, j'ai une centralisation de mon comportement, c'est pour ça que ça s'appelle behavior. On a une centralisation du comportement de certains éléments de la page qui sont identifiés avec leur tag ou avec leur combinaison de tags et leur classe ou leur ID, c'est-à-dire avec un XPath au sens technique du terme, recommandé par le W3C. Ça a été écrit directement, on sait faire ça. Donc, bah, pourquoi s'en priver? Du coup aussi, je sais que bah, mes classes pop-up, à la limite, je fais un logiciel qui va trapper tout ça, il va dire, bah, non seulement tu as des classes CSS liées à ça, mais tu as aussi des événements gérés et je peux te donner les codes sources. Au niveau documentaire, on peut automatiser les processus. Je crois qu'il y a des gens qui commencent à le faire. Bon, on va arrêter là, on pourra en discuter très longtemps, mais ce n'est pas l'objet réel, c'est pour bien dire, pour nous, c'est primordial de centraliser les informations, même au niveau du JavaScript, faire très attention à bien centraliser, à faire bien attention à ce de quoi on parle, pour éviter tous les effets de bord, qui sont nombreux, là-dedans. Et en Ajax, ça va être terrible. Maintenant, je rehausse encore d'un cran, hein, c'est ma partie RIA, maintenant, je peux m'amuser à toutes les choses qu'on a établies dans les spécifications fonctionnelles, de tout ce qu'il fallait ajaxifier, qu'on dit de temps en temps, ajaxifier quelque chose, ben, je vais le rendre en Ajax ça. Mais je serai sûr maintenant, quand j'ai demandé de la testabilité, je sais que moi, quand j'interdis Ajax, hein, par un moyen pour un autre, je sais que ça fonctionne encore, je peux le tester, même si j'introduis tout ça. Je sais que si j'enlève JavaScript, je peux continuer à tester. Si j'enlève les CSS, je peux continuer à tester et je vois tous mes services. Oula. Ici, il y a une autre technique, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Jeremy Kess, qui a parlé de tout ça assez intelligemment et qui parle de cette même notion, c'est comment partir, hein, je dirais, bon, il y a un site exemple, c'est comment partir. L'idée forte, c'est partir au démarrage avec dans la pensée de faire de l'Ajax, mais de le faire qu'à la fin. Et s'obliger à faire fonctionner les choses avant. Quand vous ferez ça, vous verrez que ça marche nettement mieux. Bon, on va passer la méthode, parce qu'apparemment, j'ai pas assez de temps. On va passer un peu tout ça, mais je dirais l'idée maîtresse aussi, c'est de faire aussi, enfin, nous, on a donné un mot plus ou moins là-dedans, c'est de faire du CSS non intrusif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la peine de mettre du CSS dans le JavaScript parce que c'est immaintenable. C'est pas au JavaScript à rendre en rouge un texte, un machin, etc. C'est à la classe à faire ça, à sélecteur spécifique à faire ça. Le JavaScript, on va se contenter, et c'est déjà pas mal, de l'organiser autour des objets, hein, des objets de type repérés par son tag ou par sa classe ou par son ID. Une fois qu'on a aiguillé, on sait de quoi on parle, comme tout à l'heure, le href, on sait le rechercher, etc. Lui, il n'y a pas à savoir quoi et qu'est-ce, c'est lui qui doit ordonner. On est pratiquement dans un modèle MVC comme ça, quoi. Modèle vue contrôleur. Enfin, pour là, ceux qui connaissent un peu comprendront. Alors, un truc aussi intéressant à savoir tout de suite, c'est que Ajax, il ne parle pas qu'en XML. Quand les gens ont dit Ajax, c'est parce qu'au départ, ils pensaient XML. Mais sachez que cette technique, on pourrait l'appeler Aja, c'est pareil, hein. En fait, vous pouvez envoyer ce que vous voulez en réalité avec votre serveur, que vous voulez dans les types prévus pour le protocole HTTP. Vous pouvez même recevoir une image, hein, si vous voulez. Ça n'a aucune importance. Hein. Ça a aucune importance. C'est à vous à savoir que vous allez recevoir une image. Vous le typez, vous regardez, vous l'aurez. Mais il y a des gens qui ont inventé un autre truc, parce que XML, XHTML, c'est pratique. Hein, c'est votre serveur qui a dit, ben, je vais mettre ça en lieu et place de quelque chose. Donc, je vais te construire tout de suite par rapport à ton modèle. Je sais que ça va marcher. Donc, à toi, développeur, quand tu recevras ça, tu le mets à la place du nœud. Ça marchera. On peut aussi faire qu'un petit texte. Si j'ai juste le titre à changer, ben, je vais dans le nœud du texte et je vais changer le texte. Je récupère mon texte. Le serveur va envoyer du texte. Il n'y a pas besoin d'envoyer du XML. Je sais bien qu'il y a des ayatollahs sur l'Ajax qui disent oh, « Non, non, on ne jure que par XML et XSLT ». Sachez que tous les navigateurs ne gèrent pas XSLT. Je crois qu'en l'occurrence, Opera ne le fait pas. Mais je ne suis pas un grand spécialiste d'Opera. Il y a un autre truc qui est intéressant pour nous développeurs en JavaScript, par exemple, c'est JSON. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce à l'américaine, JSON. C'est envoyer des flux JavaScript directs. Et pour les exécuter, il suffit de faire eval. Votre serveur vous envoie du JavaScript, vous faites eval, tout se met en place et il faut avoir toutes les fonctions qu'il faut pour mettre à jour. Et ça, ça peut se synchroniser assez facilement. Alors, pour gérer tout ça, enfin, on a vu tout à l'heure, il y a de l'ActiveX, machin, etc. Sachez qu'en fait, il y a quand même des bibliothèques qui ont tout intégré. Il ne faut plus vous embêter avec tout ça. Il y en a une qui est géniale pour ça. Elle est presque la mère de toutes les bibliothèques qui viennent au-dessus, hein, que ce soit Dojo, etc. C'est Prototype. Vous faites de l'Ajax à Prototype, vous avez deux lignes à écrire et c'est terminé. Et ça marche avec, et ça gère le problème des navigateurs. Ça réduit le code, ça simplifie l'écriture. Le problème de Prototype, c'est que la dernière version qui est sortie cette semaine, 1.6 fait 120 kg. Donc on a une solution, c'est d'utiliser la version compressée. Il y a des compresseurs de JavaScript maintenant, il y a même dans tous les langages où vous faites ça, vous faites même votre serveur à la volée peut le faire. De 125 kg, vous passez à 25 kg. C'est toujours du JavaScript, mais c'est plus du JavaScript humain. Mais ça marche quand même, hein. C'est interprétable par les interpréteurs de JavaScript. Ça réduit considérablement le poids. Alors le gros problème maintenant aussi en accessibilité, hein, c'est quand même là le nœud du problème, et j'ai plus de temps, mais je vais quand même insister pour en parler, c'est les lecteurs d'écran. Ils ont un sacré problème avec tout ça. Il y en a deux principaux. Enfin, il n'y a vraiment que ces deux-là, a priori, le reste, on peut s'en dépatouiller. Ceux-là aussi, on peut s'en dépatouiller, mais il faut faire très attention. C'est le problème à poser, c'est comment avertir le lecteur d'écran qu'il y a un changement dans la page. Parce qu'il faut savoir que le lecteur d'écran, vous changez la page, il n'est pas au courant. Pas toujours au courant, sauf dans certains cas. Et deuxièmement, à l'inverse, vous allez être souvent au courant des changements de page. Par exemple, Gmail, qui est en Ajax, vous êtes en train d'écrire votre mail, hop, tout d'un coup, vous perdez la main parce qu'il y a un nouveau mail qui vous est arrivé. C'est très chiant, ça énerve. Hein. Donc, il faut éviter les cycles automatiques qui changent les pages et qui, elles, vont être trappées par les lecteurs vocaux. Alors, pourquoi ça? C'est simple et compliqué à comprendre. C'est qu'un lecteur d'écran, lui, lit la page au moment de chargement. Et il met ça dans un stock à côté, qu'on appelle zone tampon, là, ici, hein, ça s'appelle Virtual PC sur PC, il a tout préparé pour savoir ce qu'il y a dans le contenu sémantique. Hein, la liste des sommaires, les liens, tout ça, c'est déjà préparé. Mais après, il faut le mettre à jour, parce que quand vous êtes un site dynamique, pas forcément Ajax, hein, simplement du DHTML, il faut quand même être au courant de ce qui est en train de changer. Donc, il est à l'écoute quand même d'un certain nombre de choses, notamment les objets qu'on le focus, quand vous actionnez de votre clavier avec Access Key, par exemple, ou quand vous remplissez une zone de saisie, ou quand vous cliquez sur un lien. Donc ces zones-là seront mises à jour automatiquement. Donc on est à peu près sûr que la zone tampon soit à jour, soit synchrone par rapport à la page. Le problème, c'est que, sauf pour JAWS 7 avec Firefox, mais ce qui arrive de votre Ajax, c'est un événement particulier qui s'appelle Unready State Change. C'est à ce moment-là que vous pouvez changer votre DOM, vous êtes sûr que ça ne va pas perturber, mais le navigateur, le lecteur d'écran n'est pas averti. Donc, il faut l'avertir. Comment l'avertir? Il y a deux méthodes. Une méthode qui est très élégante, c'est tabindex-1. On avait parlé de tabindex, là on le met négatif. Tabindex-1, ça veut dire pour beaucoup de navigateurs, sauf pour Safari. Excuse, il l'a pas interprété, il l'interprète pas. Mais pour tous les autres navigateurs, c'est un index égal -1. Ça veut dire que c'est la prochaine zone à donner le focus. Donc si vous forcez le focus à cette zone en plus, vous êtes sûr quand vous avez fini de mettre à jour votre DOM que votre lecteur d'écran est en train de lire la zone où vous êtes. Ça marche. Il y a plein de sites qui vous en parlent et qui cherchent rien. Le problème, c'est quand même Safari. Alors, une autre solution, c'est éventuellement, par exemple, c'est de biper, qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Quand vous avez fini, vous bipez. Hein, il y a moyen de biper, en fait. Et vous avez un lien hypertexte ou un truc comme ça, et vous demandez aux gens de mettre à jour. Enfin, ça va mettre à jour la zone. C'est aussi bête que ça. Hein, c'est vraiment un problème de synchro entre les éléments. Pour l'instant, je dirais que le travail à faire, pour moi, c'est côté Scientific Freedom, qui fabrique le lecteur d'écran, ou Windows Eyes, ou j'ai plus en nom les autres lecteurs d'écran, mais c'est à la limite à eux à synchroniser, parce que souvent, on a parlé des MSA tout à l'heure, mais souvent cet événement existe. C'est parce qu'il n'est pas remonté, il n'est pas pris en compte. Donc c'est à eux à le faire. La preuve, c'est qu'ils arrivent à le faire avec Firefox 1.5. Ouais, j'en ai presque fini. Je dirais, là, j'ai pas parlé des problèmes d'accessibilité qui seraient... J'ai pas comparé les frameworks, hein, il y en a plein, hein, Google, Yahoo, machin, Dojo, etc. J'ai pas le temps, et puis pour l'instant, moi, ça m'intéresse pas trop. Je sais qu'il y a des projets qui s'intéressent forcément, parce que quand on veut faire du full Ajax, c'est très intéressant. Mais quand bien même tout ça respecterait les directives du W3C, avec toutes ces informations en fait, d'accessibilité, vous êtes quand même amené à vous poser des questions sur l'intérêt et l'accessibilité de votre site. Hein. On va en parler tout à l'heure, mais ça ne va pas empêcher les gens de faire des choses qui clignotent de partout, des trucs qui défilent, des trucs avec des couleurs, des contrastes qui ne sont pas suffisants et tout ça. Donc l'accessibilité, elle va encore plus loin. Donc méfiez-vous de tout ça. Et quelquefois, avec ce genre d'outillage, vous n'avez pas trop la maîtrise du contrôle, comment on fait pour décélérer le mouvement, comment on fait pour l'arrêter une fois qu'on l'a lancé, etc., etc. Donc faites simple avant tout, moi c'est un conseil que je vous donne, en tout cas pour les sites où vous voulez mettre de l'Ajax pour certaines raisons, mais faites assez simple. Et le futur, je vais finir par ça va aller vite, le futur très prometteur et dans lequel Ajax peut avoir une composante très intéressante avec ça, c'est la conclusion de ça, c'est il y a un projet, il y a un groupe de travail de W3C qui travaille depuis un certain temps dessus, hein, depuis 2006, c'est opérationnel, dans un seul navigateur, Firefox, à partir de la version 1.5, pas tout, même la version 3, il n'y a pas encore tout, mais c'est très prometteur parce que là, on commence à faire vraiment des applications riches. On parlait hier de HTML5 avec toutes ces nouvelles balises. Sachez qu'en réalité, vous pouvez déjà le faire avec du HTML4 en faisant de l'ARIA. Mais c'est réservé qu'à un certain type de navigateur, en l'occurrence ici Firefox 1.5, 2, voire 3, mais pour des applications intranet ou dans lesquelles, à la limite, on embarque le moteur Gecko dans une application Java, par exemple, c'est excellent. C'est excellent parce qu'on a pu à se poser le problème de l'interconnexion avec MSA et tout ça, en utilisant la bibliothèque Java, Accessible to, machin, passer par des écrans ARIA, terminé. Et ça marche. Voilà. Il y a des questions ?
On va être assez rapide et assez concis sur les questions, si possible.
J'ai fait exprès pour pas qu'il y ait de questions. En fait.
Aurélien Lévy, Tectonica. Juste une remarque, je fais souvent des remarques. Très bonne présentation, mais faire attention à effectivement prévoir l'alternative au cas où il n'y a pas JavaScript, mais avoir conscience que les utilisateurs de lecteurs d'écran, les trois quarts du temps, ont JavaScript.
Non, je sais pas. J'ai pas mon discours n'était pas ça. C'est, oui, je m'en fous de lecteur d'écran. Le lecteur d'écran, je l'ai traité qu'à la fin avec Ajax.
Oui.
Là, je ne parle pas de lecteur d'écran. J'ai dit, il me faut un système qui fonctionne parce qu'avec mon téléphone portable, je n'ai pas de JavaScript. Il faut que mon application marche. Oui. Comment je fais ?
D'accord.
Voilà.
C'est sans JavaScript, on
est donc, ce n'est pas une alternative que j'ai faite. Hein. Vous n'avez pas bien senti la différence. Faire du rehausser, ce n'est pas d'alternatif. C'est commencer à faire fonctionner le service en très bas et de rehausser le sujet.
Mais je suis tout à fait d'accord. Mais donc, si on n'a pas JavaScript, effectivement, on aura accès à l'information. Mais il faut faire attention à rester accessible, même quand il y a JavaScript. C'est ça que je veux dire, que le JavaScript produise en lui-même du
tout
code
à fait
accessible.
D'accord. Voilà. Okay, d'accord.
Juste sur l'Ajax, le problème est que la technique de tab index à l'heure actuelle fonctionne malheureusement qu'avec pour ce qui est des lecteurs d'écran toujours, qu'avec les dernières versions de lecteurs d'écran.
Tout à fait.
Pour l'instant, on n'a pas de solution universelle sur l'ensemble des lecteurs d'écran, y compris les anciennes versions, etc. Donc c'est aussi à tempérer. Il ne faut pas sans faire tort et à travers, il faut vraiment l'utiliser avec des pincettes de façon
Je suis tout à fait d'accord.
Tester,
je dirais
vérifier,
nous,
etc.
Les applications qu'on ajaxifie sont souvent des intranets, donc des web applications dans lesquelles, donc dans des services professionnels, dans lesquels où les postes de travail sont déjà adaptés au développement, enfin autant faire se peut. C'est-à-dire qu'on va dire aux gens, bah, vous disiez, bon, par exemple, on va utiliser de l'ARIA, on peut imposer finalement que tout le monde ait Firefox en machine, chez France Télécom c'est très dur, mais enfin, on peut cacher, on met une application Java, c'est pas grave, ils ne verront pas, et à ce moment-là, ça va fonctionner, quoi. Donc, plus c'est rendre le service, c'est pas dire la politique c'est ceci, c'est cela, on peut quand même arriver à faire des choses sans que ça coûte trop cher, c'est bien le problème, hein. C'est sans que ça coûte trop cher et développer des trucs pour en mettre dans un tiroir ou mettre à la poubelle, parce que personne ne va s'en servir. Hein, c'est le but du jeu. Là, moi, là, mon discours, je n'ai rien inventé. Hein. Moi, j'ai simplement fait un éventail de tout ce qui existe déjà. Sachez que tout ce qui existe est là et vous pouvez l'utiliser. Maintenant, après, c'est une affaire d'ingénierie pure. Hein, c'est-à-dire, c'est des choix à faire. Vous le faites, vous ne le faites pas. On parlait tout à l'heure de CMS qui ne sont pas accessibles ou très peu, machin. Si vous avez la volonté de faire des CMS accessibles, vous pouvez le faire. Ce n'est pas vrai. Le problème, c'est souvent, j'ai déjà un CMS, je veux le rendre accessible. Alors là, je vous promets, c'est impossible. Si vous ne pensez pas avant, c'est impossible. Il y a plein de choses qui ne marchent pas.
Sébastien Delorme, à votre droite, en haut. Une petite question un peu hors sujet, je vais essayer d'être bref. Vous avez mentionné comme principal atout d'Ajax au début, la réduction de l'utilisation de la bande passante. Je voulais savoir si vous aviez des statistiques ou des choses qui pourraient le prouver, parce que si on se base aujourd'hui sur un modèle à fort Ajax sur les sites web, on augmente aussi de façon exponentielle le nombre de requêtes HTTP. On les diminue, mais on les augmente aussi en nombre. Donc je me demande si vraiment on baisse l'utilisation de la bande passante.
Il y a deux façons effectivement de calculer. C'est le nombre d'échanges, mais aussi la taille des fichiers échangés, enfin des informations échangées. Là, on réduit considérablement la taille. Enfin, en tout cas, si on fait des choses très simplement et très rapidement, on réduit considérablement la taille. Il y a aussi un truc aussi. Moi, là, je parle d'applications ajaxifiées, mais qui ne sont pas toutes Ajax. C'est le petit module dans un coin qui permet de... C'est le formulaire, par exemple. Ça peut être des solutions typiques de « je veux de l'autocomplétion ». Ça, vous ne me ferez pas dire ce que je n'ai pas dit, mais l'autocomplétion, en HTML pur, en même JavaScript, c'est très difficile quand les champs à sélectionner sont compliqués. Ou alors, il faut vraiment segmenter, comme j'ai dit dans la première solution, en phase. Donc, vous allez faire 3, 4 requêtes de la même page pour une seule mini-requête. Donc, tout dépend de ce qu'on va parler, c'est évident. Mais c'est sûr que maintenant, si je fais une requête à chaque fois que quelqu'un écrit un caractère dans la zone de saisie, là, c'est la cata. Hein. Souvent, il faut faire très attention à ça. Alors, il y a des astuces, entre guillemets. L'astuce, c'est d'attendre un peu. Les gens tapent à une certaine vitesse, les gens qui tapent très vite, vous allez avoir trois requêtes qui vont s'enfiler, après pour synchroniser ça, bonjour, mais attendez quelques millisecondes, hein. C'est pas... les gens ne vont pas vous taper dessus parce que vous n'êtes pas aidé sur les trois premiers caractères et que ça arrive comme seulement 100 millisecondes après, c'est pas trop grave. Donc faites attention effectivement à ne pas envoyer, et surtout un autre astuce aussi, parce que pourquoi il y a ça comme problématique, c'est parce que les gens ne font pas de cache dans leur JavaScript. Les informations qu'il a déjà sous la main peuvent être mises dans des tableaux, et ces informations peuvent être proposées sans avoir à demander à chaque fois au serveur de les rafraîchir. Si vous faites cette techno-là, vous allez réduire considérablement. Forcément, on peut toujours faire plus. Et effectivement, il y a des exemples, on a même mesuré ça, il y a des exemples où finalement, c'est le contraire qui se passe. Il y a plus de bandes passantes occupées à cause d'Ajax. Mais ce n'est pas un problème d'Ajax, c'est toujours pareil, c'est un problème de conception. C'est parce que vous avez mal compris ce qui se passait et qu'on a une situation asynchrone, c'est le problème. Moi, je suis automaticien de base, donc je connais un peu ce genre de problème. C'est le temps réel, c'est le temps réel. C'est-à-dire il y a des événements qui peuvent vous arriver, il y a des avalanches d'événements qui vous arrivent. Pendant ce temps-là, il faut quand même assurer un certain nombre de services. Donc il y a des priorités à donner. Voilà, on donne ces priorités et souvent, à régler le problème, c'est de dire oh, « je vais attendre 100 millisecondes, on verra bien si ça continue à se développer, si ça n'a pas bougé, je peux l'aider, c'est tout. » S'il a continué, bah, j'attends 100 millisecondes. Et une fois qu'il s'est arrêté de taper, hop, bah, à la limite, quelquefois, s'il tape aussi vite, il n'y a pas besoin d'être aidé. Hein. C'est parce qu'il sait tout de suite ce qu'il veut. Donc, voilà. On n'aide que ceux qui sont A, et puis après, c'est la lettre. Hop, et voilà, bah, c'est celui-là que je voulais. Tiens, voilà, c'est ça. Bon, sachant que l'autocomplétion comme ça, ce n'est pas si simple. Il faut encore la rendre accessible, par exemple, avec la flèche bas, c'est-à-dire le moment où il y a le focus, c'est déjà de mettre à jour la saisie à l'intérieur, etc. Hein, parce qu'il faut que JAWS le voit. Le JAWS, quand vous déplacez à l'intérieur de votre zone, il ne va pas parler, lui. Hein. C'est quand il est dans votre zone de saisie, parce que les robots de formulaire, là, les gens sont en mode formulaire, donc c'est quand le mode formulaire, c'est quand votre mode formulaire, votre zone input a changé, c'est-à-dire que vous, vous avez forcé la main là-dedans, puis en mettant des ombrés, des machins comme il faut avec les CSS pour que ça marche bien, vous avez là, au JAWS va parler. Il va vous dire qu'il vous propose ça.
Rapidement, les deux dernières questions, on en a une là.
Alors bonjour, je voulais savoir si, enfin, ce que vous pensiez de la bibliothèque JavaScript jQuery, parce que je trouve qu'en JavaScript non intrusive, elle a l'air vraiment très efficace. Il y a beaucoup de scripts qui sont à la disposition de tout le monde. Et personnellement, en suivant toutes les consignes à peu près, enfin la même méthode de travail, et avec donc jQuery, par rapport au problème de lecteur d'écran dont vous parliez tout à l'heure, on a fait des tests avec des utilisateurs non-voyants sur des plages braille et sur des lecteurs d'écran. Et avec donc la même construction que vous avez expliquée, jQuery, et en permettant, en signalant à la base le lecteur d'écran de rafraîchir, de réactualiser la page régulièrement, et en mettant des petites encres là où la personne va cliquer pour aller vers l'information.
Vers le contenu changé, oui.
Ça marche.
Oui, bien sûr.
Ça marche.
C'est sa technique. Voilà. Alors jQuery fait partie aussi de ces bibliothèques. J'ai parlé que de behavior, mais effectivement, il y a un peu plus sophistiqué qui s'appelle jQuery, qui fonctionne sur le même principe au niveau de l'enregistrement des événements. Il fait aussi du register là-dessus. Vous mettez vos règles de la façon qui est écrit là en XPath et vous avez centralisé. Et jQuery est excellent. Oui, tout à fait. Sans problème. Ça fait partie. Il y a d'autres bibliothèques qui sont excellentes aussi hein, pour faire l'opacité, machin. Il y a Effect, il y a un tas de trucs. Hein. Je dirais souvent, nous, ce qu'on fait, c'est soit on met la grosse truc Google, machin. Elle est excellente, hein. Je ne vais pas dire le contraire. Le problème, c'est que quelquefois, ça nous pose plus de problèmes pour en accessible qu'autre chose. Mais il y a aussi trop de choses parce que nous, on veut juste faire une opacité sur quelque chose. Il faut ramener 400 kilos de code pour faire ça. Je dirais, attendez, là, on va être. Donc, on essaie de trouver des plus petites bibliothèques qui sont compressables. Pour garder, je dirais, une autonomie, pour pouvoir choisir les bibliothèques qu'on veut accéder et les morceaux qu'on veut accéder. Sinon, même si on a besoin de presque rien, on les fabrique nous-mêmes. Je dirais, on sait faire quand même du code plus ou moins accessible, surtout si on n'a pas forcément de contraintes navigateurs. Hein. Je rappelle aussi, quelquefois, nous, on est dans des contextes un peu différents où on fait des applis intranet dans lequel, par exemple, on nous oblige à travailler avec IE, donc à la limite, on ne s'emmerde pas trop. Hein. Je veux dire, on peut rendre accessible qu'avec IE. Bon, après, le problème, c'est qu'on nous dit « Ouais, mais il faut que ça marche aussi sur les mobiles. » Et là, on se retrouve le bec dans l'eau. Donc, il faut quand même penser comme ça.
Okay, alors là,
mais jQuery, excellent. Hein.
On a la dernière question, très, très rapide, s'il vous plaît.
Bonjour, je m'appelle Harmonie et je suis développeuse totalement débutante en Ajax. Et c'était très intéressant, d'ailleurs. Mais j'aimerais bien que vous me parliez davantage du projet ARIA, où je n'ai pas très bien compris l'intérêt.
ARIA, ce n'est pas de l'Ajax. Mais on pourrait utiliser l'Ajax de façon très spectaculaire dans ce genre de projet. Le but de ARIA, c'est de donner une couche supplémentaire. Vous avez vu, j'avais mis 3-4 couches. Moi. J'avais HTML, CSS, JavaScript et Ajax. Là, je dirais, il y en a une supplémentaire qui vient en parallèle presque, qui s'appelle RDF. RDF, si les gens connaissent, c'est une définition sémantique de choses. Hein. On peut mettre du RDF dans vos pages HTML, même 4. Il suffit de mettre les doc types qu'il faut, etc. Ça marche très bien. Alors, intéressant du RDF, c'est faire, par exemple, vous avez peut-être j'entends parler du RSS, hein, des atomes RSS, bah, les gens peuvent rapatrier sur leur site des bouts d'informations, etc. Il y a des techniques qui marchent très bien pour ça. Alors là, ce RDF, c'est sert à redéfinir sémantiquement un certain nombre de balises. Un exemple concret. J'ai pas de balise menu. On a parlé d'hier HTML5, il y avait nav. Ce serait bien de distinguer les liens qui appartiennent à un menu des liens qui sont internes, qui servent à compléter les textes, etc. Ou à faire du commerce, ou de faire d'aller à l'extérieur. Donc, je peux sémantiquement définir que ma zone qui va être là est en réalité un menu. Je le définis sémantiquement, c'est-à-dire que je lui ajoute des composantes RDF disant attention, ARIA, nanana, ça, ceci est un menu. Donc ça, c'est de la définition. Il y a une autre chose qui est très intéressante, c'est ce qu'ils appellent les rôles. Hein. Donc ça, c'est je définis un rôle à un élément ou un groupe d'éléments. Maintenant, il y a l'autre fonction très intéressante, c'est les états. un rôle tout seul, ça ne sert pas à rien. Dire que c'est un menu, bon, c'est un menu. Mais savoir si mon menu, par exemple, a 5 items et qu'il y en a un qui est déroulé, ça, ça m'intéresse. Comment entretenir en permanence, parce que le DOM ne vous donne pas ça, lui, directement. Mais à travers ARIA, on va pouvoir dire, et donc c'est du JavaScript et tout ça, hein, ça enfin, peut-être un jour ce sera autrement, mais pour l'instant c'est ça, on peut quand même entretenir et savoir que mon menu est déroulé ou il est déroulable. Et là, là-dessus, c'est le moteur, les moteurs type Gecko, par exemple, Firefox 5.5, à partir de 1.5, travaillent avec MSA, donc la partie applicative qui est en dessous et qui va s'interfacer avec le lecteur d'écran pour dire, voilà, cette information importante, ceci est un menu avec 3 items dont il y en a un déroulé. En gros, comme ça. C'est ce qui se fait dans les applications type Word ou Java dans lesquelles on fait de l'accessibilité. On a autant d'informations riches. Le problème des navigateurs actuellement, c'est qu'ils donnent très peu d'informations. Et le peu qu'ils donnent, quelquefois, ne sont même pas interprétées par lecteur d'écran. Donc ARIA est un projet qui a été développé, qui est un groupe de travail avec des gens d'IBM, je crois, avec les gens de Freedom Scientific, ceux qui font JAWS, mais aussi avec ceux qui font Windows Eyes, ceux qui font ZoomText, hein, qui est un magnifier qui marche aussi très très bien, qui est très utilisé par les gens malvoyants, pour leur dire, on s'est mis autour de la table et on dit, oui, ok, enrichissez tout ça, nous on a besoin de ça, et on a envie que de faire des applications riches et qui soient accessibles. On a presque l'image d'un client riche HTML. Et je voulais vous dire qu'il y a déjà des démonstrations qui sont faites. Si vous voulez, sur ce site Mozilla, développeur sur le sujet ARIA, vous verrez tous les exemples qui existent et qui marchent même en HTML4. 1.5.
Je suis désolé, j'arrête un petit peu, on a 5 minutes de retard. Je vous donne rendez-vous dans un petit peu moins de 2 heures, à 14h10. Donc ici, à 14h10, on commence, donc venez un petit peu avant.